Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde. Nous sommes le jeudi 11 janvier. Et en préambule de ces infos, je vous informe que ce seront les dernières avant un petit moment, avant un mois exactement, puisque je ferai mon retour à l'antenne aux vacances de février. Le mois prochain sera consacré à explorer une partie du Brésil et à y faire aussi du son. Donc il y aura certainement d'autres infos qui vous arriveront de là-bas, le temps que je m'organise. Il y aura certainement des nouvelles du Brésil au moins une fois par semaine. On va essayer de s'y tenir. Et d'ailleurs, le Brésil, on va en parler un petit peu dans ces infos, puisque j'ai commencé un petit peu à potasser. Il y aura quelques brèves qui nous parleront de la situation là-bas. Mais avant cela, on va recommencer tranquillement vers chez nous, avec notamment une affaire qui nous envoie du côté de Nice. Et oui, car c'est aujourd'hui que commence le procès de l'affaire Geneviève Leguet, à savoir plus précisément l'ouverture du procès à l'encontre du commissaire qui a donné la fameuse charge policière. C'est donc aujourd'hui et demain que le tribunal correctionnel de Lyon juge ce commissaire qui s'appelle Rabah Souchi, qui est actuellement en poste à Nice. Il est poursuivi pour avoir donné en mars 2019 des ordres à l'origine de graves blessures de cette militante gilet jaune et militante d'attaque, âgée de 70 ans, donc Geneviève Leguet, qui s'est retrouvée brutalement au sol au cours d'une charge policière. Avant de revenir sur les faits, eh bien déjà, il faut quand même noter que c'est assez rare que ce ne soit pas la personne qui a fait l'acte de violence, donc le policier qui l'a bousculé. En l'occurrence, on parle même de violence aggravée, mais c'est bien son supérieur qui est poursuivi par la justice. Donc le commissaire Rabah Souchi, âgé de 54 ans, qui était l'autorité civile à la tête du dispositif policier au moment des faits. C'est donc lui qui a donné l'ordre de cette charge. Ça s'est passé en mars 2019, le 23 mars, un samedi plus précisément. Nice attend la visite du président chinois Xi Jinping. Des interdictions de manifester dans le centre-ville sont donc prises par la préfecture, d'autant qu'on est en pleine période des gilets jaunes, et notamment tous les samedis. Malgré tout, quelques dizaines de personnes bravent ou ignorent ces restrictions et se réunissent dans la matinée sur la place Garibaldi à Nice. Parmi elles, donc, cette manifestante Geneviève Leguet, avec un drapeau paix aux couleurs de l'arc-en-ciel dans la main et son gilet jaune sur elle. À 11h10, le commissaire divisionnaire Rabah Souchi, qui est le plus haut gradé sur le terrain, reçoit donc l'ordre de ses supérieurs de disperser la foule, d'après son compte-rendu. Plus d'une demi-heure plus tard, une charge des policiers de la compagnie départementale d'intervention, la CDI, fait donc chuter Geneviève Leguet au sol très violemment, ainsi que le confirmeront des images de vidéosurveillance qui ont été versées à l'enquête judiciaire. La tête de cette manifestante heurte le sol, ce qui lui a occasionné des fractures et une hémorragie et des hémorragies crâniennes. Elle n'est pas juste tombée, donc elle n'a pas juste trébuché. Elle passera d'ailleurs près de 2 mois à l'hôpital. Son préjudice est évalué par un médecin à 4 mois d'incapacité totale de travail. Et aujourd'hui encore, Geneviève Leguet explique ne pas avoir retrouvé ni l'odorat ni certains goûts et encore souffrir d'une perte de l'audition et de troubles de l'équilibre. D'après un des officiers de gendarmerie qui était présent sur place ce jour-là, qui a d'ailleurs lui refusé d'engager son équipe de gendarmes mobiles dans la manœuvre du commissaire Souchi, eh bien pour cause justement, pour lui, cette charge était en totale disproportion et ne présentait aucune nécessité face à une foule calme. C'est une charge qu'il qualifie d'instantanée, de brutale et de violente. Un autre militaire a déclaré au cours de son audition « Pour moi, le commissaire se retranchait derrière le prononcé des sommations, vous savez les fameuses sommations qu'on est censé donner avant d'engager la force, qui ont bien eu lieu. Donc pour moi, le commissaire se retranchait derrière ces sommations pour mettre fin à toute discussion sur l'opportunité ou pas d'employer la force. » Un autre fonctionnaire qui était là ce jour-là décrivait un commissaire dangereux qui lui avait ce jour même expliqué que les gendarmes mobiles n'étaient là que pour obéir à ses ordres et pour triquer les manifestants. Triquer, c'est le terme qui a été employé, donc des coups de trique. Le commissaire Rabasushi a donc été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, par ordre, provoqué à l'infraction ou donné des instructions pour commettre l'infraction de violence par dépositaire de l'autorité publique. Cela a entraîné donc une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Ça, c'est l'ordonnance des juges d'instruction qui l'énonce. Cette affaire met donc en lumière d'étonnantes pratiques du procureur de la République de Nice de l'époque, qui s'appelait Jean-Michel Prêtre. Il avait en plus d'abord confié l'enquête à la Sûreté départementale des Alpes-Maritimes, dont parmi les responsables figurait la compagne de Rabasushi. C'est Mediapart qui avait révélé le pot aux roses. Donc la personne chargée de cette enquête au début était la compagne de l'accusé. Le magistrat avait également reconnu avoir menti, donc le procureur de la République de Nice de l'époque, en conférence de presse pour soutenir la version erronée soutenue par le président de la République, qui avait dit « Geneviève Le Guay n'a pas chuté à cause des policiers ». Finalement, vu que c'était trop compliqué visiblement sur place, le dossier a été dépaysé à Lyon, ce qui explique que ça soit là que aujourd'hui soit traité cette affaire. Pour Harry Halimi, qui est avocat des parties civiles, dont Geneviève Le Guay, il s'agit d'un dossier archétypal de la brutalisation du maintien de l'ordre pendant les Gilets jaunes, souvent dû à l'autorité civile. En marche de l'audience d'aujourd'hui, une journée organisée d'ailleurs par l'organisation ATTAC pour faire le procès des violences policières, plusieurs personnalités et collectifs prendront part à des tables rondes à la Bourse du Travail de Lyon. Quant au seul prévenu de ce dossier, lui, donc le commissaire, a pu continuer d'exercer à Nice depuis les faits, et ce jusque ce mois de décembre, date à laquelle il a annoncé à ses troupes qu'il allait quitter la police nationale. Selon le journal Nice Matin, il serait pressenti peut-être pour rejoindre la police municipale de la ville.
Non mais n'importe quoi, non mais...
Allez, puisqu'on est à Nice, on va plonger en mer profonde, mais cette fois-ci on va aller un petit peu vers le nord, du côté de la Norvège, pour parler justement des fonds marins qui seront certainement explorés. Bon, pour l'instant, pas exploités a priori, mais cela n'augure rien de bon. Le Parlement norvégien a en effet autorisé ce mardi l'exploration minière des fonds marins du pays en Arctique. Cette exploitation a été pour l'instant repoussée dans l'immédiat, c'est ce que saluent d'ailleurs les défenseurs de l'océan. Mais en tout cas, la Norvège visiblement fait un pas de plus vers la destruction des coraux d'eau froide, les autres, et ainsi que les vers tubicoles et autres créatures qui fleurissent dans ces abysses arctiques. Le 9 janvier, donc, le Parlement de Norvège a autorisé à 80 voix contre 20 l'exploration minière d'une partie de son plateau continental. Plateau continental, c'est donc ce qui se trouve sous les océans. Le pays nordique pourrait devenir à terme le premier pays à exploiter ses fonds marins à échelle industrielle. Cette zone qui va être étudiée s'étend de la mer de Barents jusqu'à l'archipel du Svalbard. C'est une surface équivalente à peu près à celle du Royaume-Uni. Et elle pourrait bien contenir, selon une estimation du directoire du pétrole, 45 millions de tonnes de zinc, 38 millions de tonnes de cuivre et une myriade d'autres métaux et terres rares. Ces missions d'exploration autorisées par le Parlement norvégien devront donc déterminer si ces gisements peuvent être extraits de manière rentable. Ils ne vont pas explorer pour découvrir la beauté des écosystèmes des abysses. Lueur d'espoir, donc, je vous le disais en préambule, ou en tout cas pour l'instant peut-être délai, avant que cette exploitation ne soit définitivement autorisée, le gouvernement, qui est à sa tête le travailliste Jonas Stohr, devra réorganiser un vote. L'activiste française Anne-Sophie Roux, qui est une fer de lance de lutte contre l'exploitation minière des abysses, parle, elle, d'une victoire incomplète. Elle explique « Évidemment, nous, ce que l'on demande, et ce que les scientifiques demandent, ce n'est ni exploration, ni exploitation. » Mais c'est quand même un très gros pas dans la bonne direction, puisque la proposition de base était de démarrer l'exploitation là, tout de suite. On peut dire qu'on a sauvé les meubles et qu'on a gagné du temps. Cet activiste a contribué avant le vote au succès d'une vaste campagne internationale de mobilisation, justement contre l'extraction minière dans les eaux profondes. Une pétition a été massivement partagée sur les réseaux sociaux, qui demandait au Premier ministre d'abandonner son projet. Elle est parvenue à recueillir près de 550 000 signatures à travers le monde. À côté de cette pétition, des parlementaires européens, 119 exactement, ont aussi écrit une lettre à leurs homologues norvégiens, dans laquelle ils les suppliaient de préserver les abysses des machines excavatrices. Des dizaines d'artistes, sportifs ou personnalités norvégiennes et internationales ont également fait part sur les réseaux sociaux de leur opposition à ce qu'on appelle en anglais le deep sea mining, donc miner le fond de la mer, dans l'espoir donc de faire renoncer Jonas Stohr à son projet. Pour Anne-Sophie Roux, elle promet que la lutte continuera avec les opposants qui continueront dans ces prochains mois à mettre la pression au gouvernement norvégien. L'extraction minière pourrait considérablement et durablement affecter les abysses arctiques. Moins connu des scientifiques que la surface de la Lune, en effet, le fond des océans abrite des milliers d'espèces uniques. Ces espèces abandonnent en masse les zones soumises au passage des machines excavatrices qui raclent le fond. Et ça a été prouvé par une étude de juillet dernier dans la revue scientifique Current Biology. En 2019, notre équipe de chercheurs avait, elle, découvert que l'écosystème d'un bassin sédimentaire qui était au large du Pérou était encore en mauvaise santé, et ce, 26 ans après qu'on y ait simulé les effets d'une opération minière. C'est-à-dire qu'ils ont fait semblant d'aller creuser au fond, et 26 ans après, l'écosystème est encore, n'a toujours pas retrouvé un semblant de normalité. Cette équipe de chercheurs en a déduit que les fonctions de certains écosystèmes pourraient être détruites de manière irréversible par l'exploitation minière, si celle-ci prenait acte pour de vrai. Les scientifiques craignent par ailleurs que ce deep sea mining perturbe aussi le puits de carbone océanique. En effet, en raclant les grands fonds, les machines excavatrices pourraient provoquer le relâchement dans l'atmosphère d'une partie du fameux carbone qui est séquestré dans les profondeurs depuis des millions d'années. Ces dispositifs pourraient également remettre en suspension dans la colonne d'eau des sédiments, des métaux et des toxines néfastes pour la vie marine. Ça remuerait le fond, et visiblement tout n'est pas bon dans ce qu'il y a dans le fond des océans. En tout cas, vous l'aurez compris, une profusion de risques dont on ne connaît encore pas du tout les effets, qui ont conduit plus de 800 scientifiques et spécialistes de l'océan à exiger dans une lettre ouverte la mise en pause de l'exploitation minière des abysses, une recommandation que le gouvernement norvégien ne semble pour le moment pas avoir encore tout à fait entendue. Et au niveau international, il n'existe malheureusement aucune régulation pour l'instant de ce qu'on peut faire ou ne pas faire au fond des océans.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Et si vous voulez retrouver justement les pétitions ou les lettres ouvertes qui ont été signées par ces scientifiques, vous retrouverez cet article dans les colonnes de Reporters où des liens vous permettront d'aller explorer un petit peu plus toute cette affaire. On reste d'ailleurs dans les colonnes de Reporters avec deux brèves, deux histoires de cétacés. On reste un peu dans les océans là. Tout d'abord, on va parler des orques. Les orques du Marineland d'Antibes, dans les Alpes-Maritimes. Elles s'appellent Vicky, Keijo et Inouk. Ce sont les trois dernières orques du Marineland d'Antibes. Eh bien, elles risquent peut-être d'être bientôt expédiées vers un parc animalier au Japon. C'est en tout cas ce que craignent les associations Sea Shepherd France et One Voice, après avoir observé des tests de brancardage de ces cétacés le 9 janvier, mardi dernier, donc, au Marineland d'Antibes. Ces images ont été filmées par l'association One Voice, et on y voit des dizaines d'humains s'agiter autour des orques dans un bassin qui a été en partie vidé, afin visiblement de les habituer à être tractés dans les airs, c'est-à-dire qu'ils vont être héliportés dans ce qui ressemble à une espèce d'énorme civière. Cette manutention est profondément stressante et traumatisante, dénonce l'association Sea Shepherd France dans son communiqué. Et ces simulations, pour l'instant, d'évacuation pourraient bien être le signe du départ très proche de ces orques vers le Japon. Selon le journal Nice Matin, d'ailleurs, des avions cargo auraient été réservés à cet effet. Toujours selon ces journalistes, le parc Kamogawa Sea World, qui se situe dans la région de Kanto au Japon, serait la destination d'au moins une de ces orques. Une loi de 2021 contre la maltraitance animale interdit en effet à partir de décembre 2026, soit dans deux ans, la détention de cétacés dans les delphinariums français, donc qui vont à terme disparaître. Toute la question est de savoir ce qui adviendra donc de ces trois orques qui sont encore en vie. Elles sont bien entendu nées en captivité et donc elles ne peuvent pas être relâchées facilement dans l'océan. One Voice et Sea Shepherd France militent au moins pour qu'elles soient accueillies dans un sanctuaire marin, afin qu'elles puissent connaître, au moins une fois dans leur vie, autre chose que des blocs de béton remplis d'eau salée. Comme l'expliquait le journal Reporter, d'ailleurs dans son article récent, cette solution s'avérerait cependant très coûteuse et complexe sur le plan logistique. Et c'est certainement ces raisons qui ont poussé le parc Marineland d'Antibes à pencher plutôt pour un transfert de ces animaux vers un autre parc animalier. Ce qui condamnerait ces animaux intelligents à une exploitation plus terrible encore que celle dont elles faisaient l'objet en France. Par ailleurs, le transport par avion les soumettrait à un stress si intense qu'il pourrait s'avérer fatal, craignait Sea Shepherd France dans son communiqué. D'ailleurs, une des orques du Marineland, Moana, était déjà morte au mois d'octobre dernier dans son bassin, ce qui avait alors déclenché la colère des associations de protection animale. Et on reste avec les cétacés, mais cette fois-ci peut-être une meilleure nouvelle pour eux. On peut espérer qu'ils soient moins nombreux cette année à mourir sous les coups des coques de navires de course. En effet, pour la première fois dans l'histoire de la course au large, des zones d'exclusion ont été mises en place. C'est dans le cadre de l'Arkea Ultimate Challenge. C'est un tour du monde en solitaire à la voile qui a commencé ce 7 janvier. Des zones d'exclusion donc pour protéger baleines, rorquals et cachalots du passage des voiliers de course. Ces voiliers sont très silencieux, toujours plus rapides, hein, ce sont des vraies fusées maintenant sur l'eau, étruffées d'appendices tranchants, des ailerons notamment en fibre de carbone. Ces voiliers entrent régulièrement en collision avec des cétacés, de récentes enquêtes l'ont prouvé. Les maxis trimarans, notamment de la classe ultime, font partie des vaisseaux les plus dangereux pour la faune marine. Les 6 skippers qui sont engagés dans cette course devront donc éviter des zones de reproduction et d'alimentation de ces cétacés qu'il y a tout le long du parcours. On en trouve derrière dans les Açores, dans les Canaries, au large du Cap de Bonne-Espérance, du Cap Horn, des îles Kerguelen ainsi que du Cap Vert. D'ailleurs, l'ancien coureur au large Stan Turet, qui milite lui pour une mue écologique de cette discipline sportive, salue cette bonne nouvelle. « C'est du bon sens, dit-il. » Évidemment, il ne faut pas aller jouer avec des bateaux qui vont à environ 80 km/h dans des endroits où il y a des espèces vivantes en danger. Ça ne serait pas validé dans d'autres sports, par exemple de faire des descentes en freeride dans des zones de montagne où il y a des tétras lyres protégés. Un bilan de cette mesure devra selon lui être fait d'ailleurs à la fin de cette course. On verra à l'arrivée combien il restera d'appendices. Quand il parle d'appendices, il parle justement de safran et autres quilles qui jonchent tous ces bateaux pour leur permettre d'aller droit ou certaines même fois même de voler au-dessus des eaux puisqu'il y a aussi la mode maintenant des foils. Et il dénonce une omerta très importante dans la profession. En général, après une collision, beaucoup de coureurs déclarent avoir heurté un objet flottant non identifié plutôt qu'un cétacé. Mais on commence à se réveiller, à mettre des choses en place, dit-il, tant mieux. Mais les organisateurs de course mettent le doigt dans un engrenage qui les amènera forcément à s'interroger sur leur vitesse et la nécessité de ralentir. Donc on pourra même se demander justement quelle est la pertinence de faire des courses à ce moment-là.
Je fais what? D'où ça sort quoi? D'où ça sort?
Allez, puisque c'est les dernières nouvelles du monde avant un petit moment, avant quelques semaines, et qu'on est parti sur quelques bonnes nouvelles, je vais essayer de continuer. Je suis allé voir sur le site de France Info, et justement, pour la nouvelle année, ils ont fait le classique, la liste des bonnes nouvelles. Alors, je vous épargne tout ce qui est résultats sportifs ou du box-office, mais il y a quand même quelques petites brèves qui méritent d'être soulignées. D'ailleurs, les océans, on va encore en parler. L'ONU a enfin un traité pour protéger les océans. Jusqu'à présent, donc, ces océans qui, par définition, n'appartiennent à aucun État, ce qui ramène aussi à la question des fonds marins, dont on a parlé un petit peu plus tôt, eh bien, ces océans étaient dans l'angle mort des mesures de protection de l'environnement. Il a fallu 15 ans d'âpres négociations, mais un accord a été adopté au mois de juin dernier, et cet accord est historique. Ce traité est l'occasion de créer un outil pour atteindre les objectifs de conservation visant à protéger au moins 30% des océans de la planète d'ici 2030, rappelle sur son site donc le secrétariat d'État chargé de la mer pour ce qui est de la France. Sur Terre, ce sont les trains de nuit qui ont fait leur retour en France et en Europe. Ils semblaient assez passés de mode quand les lignes ont fermé les unes après les autres au début des années 2000. Mais la crise climatique a remis au goût du jour les trains de nuit qui sont bien moins polluants que l'avion. Les trains tout court d'ailleurs. Il est donc désormais possible de s'endormir à Paris et de se réveiller à Berlin, à Aurillac, à Lourdes ou encore à Nice. Et ce n'est que le début, puisqu'il y a une start-up qui s'appelle Midnight Trains qui va proposer dès cette année des liaisons vers d'autres grandes villes européennes comme Rome, Milan, Madrid et Copenhague sur la liste. Il y a une carte d'ailleurs que vous pouvez retrouver en ligne, la carte du site Toute l'Europe. C'est le continent entier qui relance ce mode de transport économique. Et on va peut-être enfin arrêter d'aller prendre des avions pour aller passer des week-ends dans des capitales pas loin de chez nous. Les femmes sont mieux prises en compte dans le domaine de la recherche. Et oui, il aura fallu attendre 2023, par exemple, pour qu'on utilise un mannequin au gabarit proche de la moyenne des femmes européennes dans les crash tests de voitures. C'est pas le meilleur exemple de prise en compte des femmes, mais quand même, parce qu'au niveau des mesures de sécurité, eh ben ça change pas mal de choses, notamment au niveau des cervicales pour les ceintures de sécurité. C'est en Suède qu'ils ont commencé à faire ça. La date d'entrée en vigueur de ces tests remonte aux années 70, rappelle l'AFP. Autre exemple, en 2023, eh ben on a enfin eu l'idée brillante d'utiliser un autre liquide que l'eau pour tester les protections hygiéniques. Vous savez, les petites vidéos là qu'on voit à la télé où ils mettent un liquide bleu sur des serviettes. Eh ben, cette étude scientifique a bizarrement constaté que les serviettes n'étaient pas si efficaces que ça. Eh ben oui, parce que le sang est bien plus dense que l'eau. Il ne fallait pas non plus faire des grosses études pour s'en rendre compte. Et ou alors les fameux produits bleutés qui sont présentés dans les pubs à la télé. Mieux vaut tard que jamais, donc on verra ce que ça donne par la suite. Sans transition, une autre nouvelle sur les nappes phréatiques. J'en ai déjà parlé, mais une grande partie des nappes phréatiques de France semble revenue à un niveau normal. C'était pas gagné, hein, vu que l'année 2023 avait encore battu des records de chaleur. C'était officiellement l'année la plus chaude jamais enregistrée. Mais l'automne très pluvieux, qui a été d'ailleurs marqué par pas mal de tempêtes et de crues, hein, ça a continué encore en ce début d'année. En tout cas, cet automne pluvieux a permis de remplir les nappes phréatiques à un niveau quasiment habituel pour la saison. Cela alors que 80% de ces nappes présentaient un déficit inquiétant au mois de février dernier. Seuls 37% aujourd'hui affiche un niveau inférieur au normal en fin d'année, mais malheureusement il y a des grosses disparités régionales et pour le coup bah, c'est chez nous que c'est pas joli joli, hein. L'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales sont toujours dans des situations critiques au niveau des ce qu'on appelle les aquifères. Et enfin, la déforestation de l'Amazonie est en net recul, une conséquence directe de l'élection du président Lula à la tête du Brésil. La déforestation de ce qu'on appelle le poumon de la planète, la forêt amazonienne, a reculé de plus de 22% en un an, selon les dernières données officielles. Alors, malgré tout, ça fait quand même 9000 km² de forêt qui sont passées à la tronçonneuse, ce qui représente quand même à peu près l'équivalent de la Dordogne. Mais pour autant, c'est quand même nettement mieux que le record de 13000 km² en 2021, quand on était encore sous le mandat de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. De plus, le président Lula est arrivé 1er janvier de cette année, quand la mesure annuelle va d'août 2022 à juillet 2023. 1er janvier 2023, je veux dire. On pourrait donc avoir encore un recul de ces chiffres une fois qu'ils auront pris en compte toute la période qui va de maintenant jusqu'à juillet. Et ouais, vous me voyez venir, hein. On est parti un peu au Brésil, on va y rester. Puisqu'on va finir ces nouvelles du monde avec un petit peu d'ambiance comme ça. Une bonne nouvelle encore pour un poisson préhistorique qui était menacé d'extinction il y a encore quelques années. Il s'appelle le pirarucu. C'est un géant des eaux, des fleuves. Il peut peser plus de 200 kg et il voit ses populations refleurir. Ce géant des eaux de l'Amazonie avait presque disparu il y a seulement 30 ans. Dans les années 90, le gouvernement brésilien l'avait alors déclaré menacé de disparition et seulement les habitants de quelques communautés traditionnelles avaient le droit d'en pêcher, et cela avec des quotas très stricts, et en plus seulement quelques semaines par an. La lutte entre les pêcheurs et ce poisson peut d'ailleurs durer des heures, c'est une pêche qui est tout sauf anecdotique. En tout cas, grâce à ces fameux quotas de pêche, en 20 ans, le nombre de poissons est passé de 1500 à 170 000 individus. Autant dire que la population a repris du poil de la bête, ce qui est un très bon indicateur aussi environnemental pour les chercheurs, à mettre en relation peut-être avec le fait que les forêts alentours sont parmi les rares à ne pas avoir subi d'incendie ces dernières années, et donc la qualité des eaux a priori a été préservée. Malgré cela, le pirarucu est toujours menacé par la pêche illégale. Et on reste encore un petit peu au Brésil, pour vous donner un avant-goût de ce que vous aurez à l'antenne, certainement les jeudis des prochaines semaines. Sur la situation politique de ce pays, un an après la tentative du coup d'État des partisans de Bolsonaro, le climat politique reste tendu, clivé même on pourrait dire. C'est pour ça que le président Lula a organisé ce mardi une cérémonie de commémoration de la démocratie inébranlable, c'est comme ça qu'il l'a appelée. Il y a un an, rappelez-vous, une horde de soutien de l'ancien président Bolsonaro saccageait la place des trois pouvoirs à Brasilia, la capitale du pays. Ça rappelait un petit peu les actions des partisans de Donald Trump, avec qui il s'entendait très bien Bolsonaro. Près de 500 invités sont été attendus à cette célébration, hein, politiciens, militaires, membres de la société civile. Entre discours et moments symboliques, tout était organisé pour célébrer une démocratie qui leur aurait échappé belle. Lula d'ailleurs se veut rassembleur. Juste après les actes de vandalisme, Lula incarnait la démocratie, explique l'analyste politique Thomas Trauman. Le président espère aujourd'hui récupérer cette envergure institutionnelle afin de se présenter comme le président de tous les Brésiliens et pas seulement des 51% qui ont voté pour lui. Mais ça ne sera pas facile car la polarisation reste forte dans le pays. Ainsi, par exemple, au cours de cette cérémonie, la plupart des gouverneurs d'opposition qui ont été invités ne sont pas venus. Le politologue explique qu'avant, cette polarisation du pays se terminait au moment de la fin des élections. Aujourd'hui, elle est répandue dans le monde politique, dans les écoles, au travail, dans la manière de consommer. Polarisation donc beaucoup plus dangereuse et qui rappelle fortement la situation des États-Unis. Malgré donc une réponse forte des autorités, les menaces contre la démocratie persistent, notamment parce que les organisateurs et instigateurs de cette tentative de coup d'État d'il y a un an échappent encore pour le moment à toute condamnation. Et voilà, chers amis, c'était pour ce mois de janvier les dernières nouvelles du monde réalisées depuis les studios de Radio Escapade. Je m'envole pour un mois. Je reviendrai les poches pleines de sons et j'essaye de vous envoyer à peu près toutes les semaines des infos de là-bas, un petit peu d'ambiance, mais aussi justement des analyses de la situation, puisque ce qui se passe au Brésil touche aussi quand même en partie pas mal le monde entier, que ça soit dans la menace du fascisme ou les menaces sur les écosystèmes, les droits des travailleurs, des paysans, des communautés. Bref, il y aura certainement des choses très intéressantes à mettre en relation avec les informations d'ici. Et puis en attendant, il fera un petit peu plus chaud aussi, je pense. Allez, je vous remets un petit peu de Brésil et puis on se retrouve du coup très bientôt à l'antenne, en tous les cas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les Nouvelles du Monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.